fin de journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir. Rencontre avec.
Bonsoir. Rencontre avec ce soir. Jean-Paul Huchon, président du conseil régional de l'Île-de-France, première région, ça c'est certain, peut-être aussi d'Europe. Alors quelques chiffres clés. D'abord, qu'est-ce qu'un conseil général régional, pardon. Alors, la loi de décentralisation du 2 mars 1982 a créé la région, collectivité territoriale, constituée par un ensemble de départements regroupés en fonction de leurs intérêts économiques et culturels. Les 96 départements français métropolitains sont regroupés en 22 régions et l'Île-de-France compte 8 départements. Paris, la Petite Couronne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et la Grande Couronne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne et l'Essonne. Le Conseil régional au sens de l'institution régionale est composé de l'Assemblée régionale d'un cabinet et des services qui en dépendent et de l'administration régionale organisée en différentes directions et services. Vous êtes d'accord avec la définition, monsieur
Tout
le Président?
Tout à fait, il y a 209 conseillers régionaux. C'est la troisième Assemblée de France après l'Assemblée nationale et le Sénat.
D'accord, bien. Alors, bien sûr, ce soir, nous allons aborder tous les grands sujets que ce conseil a en charge, bien sûr. Hein. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de votre collaboration avec Michel Rocard, qui, pour différentes raisons, a marqué une période de la vie politique française. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est un petit peu lui qui vous a mis le pied à l'étrier?
Oh, ça, on peut le dire tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Rocard il y a très très longtemps, dans les années 69, juste après mai 68, et d'écrire avec lui un livre qui s'appelait « Le marché commun contre l'Europe » et qui était au fond le descriptif du phénomène des multinationales et la nécessité pour l'Europe de se doter de politiques communes pour être une autorité politique à égalité avec les grandes firmes multinationales. C'était assez visionnaire, ça date de 70. Ouais. Et Michel et moi avons écrit ça, enfin il faut le dire, je l'ai écrit plus que lui parce qu'il avait bien d'autres occupations. On l'a signé ensemble, c'est mon premier souvenir avec lui. Mon plus beau souvenir avec lui, bah, c'est l'arrivée à Matignon, parce que c'était très très émouvant et très impressionnant de se retrouver, de saluer Jacques Chirac, de s'installer et au fond d'avoir une page blanche devant soi à remplir avec François Mitterrand à l'Élysée, mais qui avait adoubé enfin Michel Rocard. Et enfin, mon troisième grand souvenir, c'est la signature des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, où là, au cours d'une nuit à la fois dramatique et en même temps pleine d'émotions, on a changé un peu la face en terminant avec une part du colonialisme français, je crois que c'était, et avec la guerre civile. C'était très émouvant parce que c'est une affaire qui n'aurait pas pu être menée par quelqu'un d'autre que Michel Rocard et son équipe, mais surtout lui, parce que je crois qu'il avait tellement de bonne foi et il voulait tellement au fond résoudre cette affaire entre hommes, entre responsables, qu'il est passé par-dessus son ego, par-dessus son orgueil, et Lafleur et Chibaou, s'ils sont passés par-dessus leur ego, leur orgueil, c'est un magnifique cas où la politique n'a été menée pendant quelques mois qu'avec de bons sentiments. C'est tellement rare.
Et à ce sujet, vous saluez l'action de Christian Blanc?
Oui, Christian Blanc a été déterminant dans cet accord, surtout dans la partie préparation, le fameux voyage avec les représentants des communautés religieuses et de la communauté maçonnique.
Oui, très œcuménique.
Très œcuménique, tout le monde y était, y compris les maçons, et oui. Ça a été un moment, je crois, qui a permis dans une espèce d'équilibre très très fragile de rétablir les liens entre les communautés. C'est ce que ça s'appelait la mission du dialogue, et c'était bien sa fonction.
Bien. Alors, parlons maintenant de cette région dont vous êtes le président, et tout d'abord d'un sujet brûlant, très brûlant, que sont les transports en Île-de-France. Alors, où en est-on exactement avec le STIF, qui a posé problème, comme on le sait, et c'est le gros dossier.
Alors, le STIF, c'est, pour vos auditeurs, c'est un organisme qui regroupe la région et les départements aujourd'hui, donc uniquement des élus,
oui.
Et qui, plus la Chambre de commerce, hein, mais enfin uniquement des élus, et qui se substitue au ministère des Transports, à l'État, qui autrefois était le gestionnaire des transports publics dans notre région. C'est donc vraiment une révolution, parce que ça veut dire qu'on remet les transports, qui sont peut-être la question la plus sensible pour les franciliens, entre les mains d'élus, avec un budget considérable, près de 7 milliards d'euros, et avec surtout des échéances considérables. Il faut changer tout le matériel de la SNCF, c'est-à-dire qu'il faut remplacer...
On va en parler.
Les petits grilles, les trains à deux étages, etc. Il faut terminer toutes les liaisons qui sont des liaisons banlieue-banlieue, de manière à faire que notre région soit plus seulement un système de radial vers Paris. Et puis, il faut revoir, sans doute en profondeur, la tarification des transports pour la rendre plus juste et plus efficace. Donc, ce sont de très grands chantiers. On est maintenant rentré au STIF, nous en avons la responsabilité, et les franciliens, petit à petit, s'habitueront à mettre en cause ou à féliciter, on verra comment ça marche, la région, parce que c'est la région qui a la majorité des sièges et qui est donc responsable. Et c'est votre serviteur qui est le président du STIF. C'est une tâche qui m'occupe aujourd'hui pratiquement à mi-temps par rapport à la région.
Ah oui.
Oui.
Oui, c'est très, très important.
Ce sont des dossiers très lourds, techniquement, politiquement, financièrement.
Alors, Jean-Paul Huchon, où en sommes-nous justement de ce fameux TGV de banlieue qui doit remplacer la totalité du matériel inox qui circule encore sur le réseau SNCF? On dit qu'il serait 2 à 3 fois plus fiable que le matériel actuel, d'une part. Alors, le budget doit être colossal, on parle de pratiquement 4 milliards d'euros. Et le patron d'Alstom n'hésite d'ailleurs pas à dire que c'est le marché du siècle. Alors comment le STIF va financer ce projet?
Je comprends que le patron d'Alstom se dise que c'est le marché du siècle, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres concurrents, hein, il faut le dire. Il y a 3 grandes sociétés qui sont en fait en concurrence. En réalité, il s'agit de prendre en compte le fait que notre matériel SNCF, 60% du matériel qui roule en France, en Île-de-France seulement, est un matériel qui a entre 30 et 40 ans d'âge et qui est donc aujourd'hui obsolète et soumis donc à des incidents, des pannes, des retards, des dysfonctionnements qui font malheureusement le quotidien d'une partie des franciliens sur les différents moyens de transport ferroviaires. Il faut donc que nous le modifions et que nous le changions, il faut que nous l'achetions, et c'est en effet une opération qui monte à 4 milliards 200 millions d'euros. C'est en effet un marché considérable et c'est un train qui devrait avoir des caractéristiques de confort, de fiabilité, c'est-à-dire il n'y aura plus d'incidents dus aux pannes de la motrice, etc., qui devra être accessible à toutes les personnes à mobilité réduite, y compris bien sûr les personnes handicapées, et qui par ailleurs devra posséder à l'intérieur un système d'information en temps réel des voyageurs et offrir un confort qui n'a rien à voir avec les trains actuels. Silence, à la fois sécurité aussi, et visibilité, c'est-à-dire vous allez circuler dans des rames qui sont très très aérées, pas du tout fermées, avec pas de risque de se faire coincer quelque part. Alors tout ça, c'est un matériel qui va être choisi entre le 1er et le 31 août de cette année. D'accord. Et nous n'avons évidemment pas le droit de nous tromper, et c'est d'ailleurs pourquoi une certaine angoisse de ne pas me tromper, parce que il y a de très bons prototypes, il y a de très bonnes sociétés, mais il faut être sûr que tout ça marchera. Or, nous commandons pour que les premières rames soient disponibles en 2009, fin 2009. Et 2009, c'est demain.
D'accord. Bien. Alors, qu'en est-il, puisqu'on est dans les transports, qu'en est-il des nouveaux horaires de nuit et des nouveaux tarifs? On en a beaucoup parlé.
Alors,
où est-ce que vous en êtes?
Oui, on a commencé par augmenter l'offre de transport. Et donc on l'a augmenté de deux manières. D'une part, en desservant mieux la grande couronne, on va consacrer 50% des crédits à des opérations d'amélioration du transport en grande couronne, comme par exemple dans la zone des Mureaux, Verneuil, Vernouillet, on vient d'installer un transport direct jusqu'à la Défense, ce type d'opération. Et puis on va le faire aussi dans le temps, c'est-à-dire il faut qu'on ait des moyens de transport qui gagnent du temps et qui soient plus fréquents. Et puis qui dure plus longtemps, c'est-à-dire la nuit par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y avait pas de système permettant de rejoindre la grande banlieue par des bus fiables, etc. On a mis en place ce système du Noctilien qui est tout de suite un succès formidable. À partir de toutes les grandes gares parisiennes, vous regagnez y compris la grande banlieue jour et nuit 24 heures sur 24. Ça a plusieurs ça a dépassé la centaine de milliers déjà de voyageurs par jour. C'est formidable. Et là, on va aller plus loin, puisqu'on voudrait faire durer le métro jusqu'à 2h15. Après, il y a un problème d'entretien du métro dans la nuit, on ne peut pas aller au-delà de 2h15. Mais jusqu'à 2h15, ça permet à des jeunes qui sortent, par exemple, le vendredi ou le samedi, de rentrer de manière absolument sécure après leur soirée. Et je crois que c'est très très important, compte tenu du fait que les jeunes sont bien souvent les plus exposés au risque d'accident de voiture, surtout les jours où ils sortent.
Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à un volet, parce que ça va très vite, hein, on ne peut pas aborder tous les problèmes. Alors, on va parler quand même du volet éducation. Le conseil régional a en charge les lycées. Et pour aider les lycéens à réaliser leurs projets, la région propose deux dispositifs originaux, projet passion et projet lycée. Qu'en est-il exactement ?
Alors, il y a plusieurs, maintenant, plusieurs centaines de nos lycées. Ils sont 468 au total, les lycées publics. Puis il y a les lycées privés que nous aidons dans le cadre des lois Debré habituelles. C'est-à-dire, au total, ça fait presque 600 lycées. Ces 600 lycées, nous, il y en a plusieurs centaines qui font soit un projet lycée, soit un projet patient. Un projet lycée, c'est un projet qui concerne tout le lycée et qui, par exemple, va être un projet autour de la sécurité routière, par exemple, ou autour de, je dirais, de l'aide au tiers-monde, ou un projet de coopération avec un autre lycée. Et puis, il y a les projets passion, alors qui peuvent concerner des groupes d'élèves, voire des élèves tout seuls. C'est ainsi qu'on a conduit une élève jusqu'au concours de Rome pour le chant, d'opéra. Voilà, donc on a des cas individuels ou des cas de groupe où 3-4 élèves qui se regroupent pour faire un petit orchestre de chambre, etc. Et donc nous finançons jusqu'à concurrence de, je crois, de 15 000 euros maintenant, chacune de ces initiatives. Alors vous voyez, ça représente des efforts, ils sont labellisés, bien entendu le choix est fait par un jury, mais c'est sur la demande, bien entendu, des lycées, des proviseurs et des conseils d'administration, dans lesquels il ne faut pas oublier qu'on a toujours un conseil régional qui siège.
D'accord. Bien. Domaine social. À présent, le 18 mars dernier, vous avez ouvert le colloque anniversaire des 50 ans du planning familial. Qu'en est-il ressorti ?
Nous sommes très marqués par ces années planning familial, qui ont été les années où les femmes ont commencé à disposer, je dirais, librement de leur corps, de leur manière de vivre. Et nous finançons beaucoup d'opérations menées par des associations pour favoriser l'autonomie des femmes, et en particulier dans les quartiers où elles sont soumises, par exemple, à des interdits religieux ou à des interdits familiaux. Donc nous sommes en effet assez présents auprès de toutes les associations qui luttent pour éviter, par exemple, les violences qui sont faites aux femmes, ou qui permettent à des femmes de suivre des cours d'alpatisation ou de formation professionnelle pour retrouver un métier. Nous aidons aussi à la garde des enfants. On va voter très prochainement, la semaine prochaine, un ticket emploi-service permettant, par exemple, aux mères de bénéficier de garde d'enfants pour pouvoir poursuivre leur carrière professionnelle. Donc nous sommes présents sur tout ce champ avec une connotation peut-être un peu particulière à la région Île-de-France, c'est que nous avons autant d'élus femmes que d'hommes. Et que dans mon exécutif, c'est dans le petit gouvernement de la région, j'ai plus de femmes que d'hommes. C'est moi qui fais l'équilibre avec le nombre de femmes. Donc on tient beaucoup. Et puis ma directrice générale des services est une femme, la directrice générale du STIF, c'est aussi une femme. Nous essayons, je crois, enfin moi je...
Votre chef de presse est une femme.
Exactement, bien sûr. Oui, Patricia Blanchard est en effet à la tête du service de presse. Et nous avons une pratique qui consiste à donner vraiment toute leur chance aux femmes. Et d'ailleurs, on s'en porte très très bien, parce que les résultats, l'efficacité sont là.
Une question qu'on m'a demandé de vous poser, est-ce que l'IVG est-elle en danger ?
C'est sûr que nous avons d'ailleurs pris des dispositions pour favoriser alors l'information sur l'IVG, bien sûr, mais aussi la disponibilité de médecins et la disponibilité d'établissements hospitaliers. On a financé des services pour que ces services puissent continuer à travailler et avancer. En France, il y a une tendance, comme en Amérique, à remettre en cause ce droit sacré, hein, essentiel, qui a été développé et fait voter par Simone Veil à l'époque. Je pense qu'il y a, une espèce de révolution conservatrice à l'envers qui est en train de se produire et qu'il faut qu'on soit très vigilant et qu'on permette aux femmes de rester libres de leur corps. Bien sûr, moi je suis avec attention tous les progrès de la médecine, et y compris s'il y a demain une contraception masculine qui fasse reposer la responsabilité du couple à la fois sur l'homme et la femme, ça sera pas plus mal non plus.
D'accord. Bien. Dossier environnement, expliquez-nous l'action de la région en matière d'environnement, parce que ça aussi c'est très important pour les gens qui sont derrière leur transistor.
Oui, c'est très lourd, parce que le slogan de ma campagne, c'était « Faisons de la région Île-de-France la première éco-région d'Europe ». C'est un slogan, mais il veut dire quelque chose. Derrière lui, il y a le fait que nous subordonnons chacune de nos politiques à des exigences environnementales. Je prends un exemple. Lorsqu'on construit des logements, maintenant c'est en haute qualité environnementale. Lorsqu'on construit des lycées, on utilise des techniques de haute qualité environnementale. On favorise toutes les économies d'énergie. On favorise les énergies nouvelles. On finance des éoliennes, on finance de la géothermie, on finance des capteurs solaires. En matière de pollution des rivières, nous sommes un des plus gros financeurs en termes d'assainissement et de purification des rivières. Ce sont des sommes considérables. En matière de déchets, nous avions une politique qu'on appelait la politique des terres vives, qui consistait à favoriser l'incinération ou le traitement des déchets pour éviter qu'ils soient répandus dans la nature. Donc, d'une manière générale, nous sommes très très à l'écoute de toutes ces politiques. Et puis, il y en a une qui, évidemment, en quelque sorte englobe toutes les autres. C'est la politique des transports, puisqu'elle vise non pas à éliminer la voiture, mais à lui donner une solution alternative avec des transports propres et non polluants. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, nous sommes très favorables aux déplacements par voie d'eau, etc., où il y a beaucoup moins de risques de pollution. Et on encourage tous les moyens de déplacement. Par exemple, pour vous donner un exemple qui est très très parlant en chiffres, kilomètres de pistes cyclables financées, quand je suis arrivé, 15 millions de francs, aujourd'hui c'est 20 millions d'euros.
D'accord. Voilà. Oui, le chiffre est probant. Je recevais dernièrement des responsables de l'ONF à propos de du classement de la forêt de Rambouillet. Quelle est votre position là-dessus ? Parce qu'on a entendu tout et le contraire de tout. Il y a des gens qui sont foncièrement pour et il y en a d'autres qui sont foncièrement contre. Alors, quel est l'avis du président de la région ?
Nous ne sommes pas directement en charge de ce sujet, qui est vraiment un sujet ministère de l'Agriculture et de la Forêt. J'en ai été un directeur de cabinet il y a très très longtemps dans ma carrière, et je me souviens de l'enjeu que représente le classement d'une forêt. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous facilitons l'accès du public à la forêt. Avec l'agence des espaces verts, nous organisons la possibilité de s'intéresser à la faune, à la flore, les maisons d'examen, les maisons où on peut dans la forêt rencontrer des spécialistes qui vous donnent tous les éléments pour bien visiter la forêt, etc. En ce qui concerne le classement de la forêt de Rambouillet, je crois que le classement doit se comprendre, s'il doit être réalisé pour protéger cette forêt, qui est une très très belle forêt que je connais bien, dans laquelle je vais souvent, doit aussi se comprendre quand même comme un classement qui ne soit pas trop drastique et qui permette aux habitants de profiter. C'est-à-dire, ça suppose d'aménager des sentiers, de baliser les sentiers et d'organiser la surveillance aussi des sentiers et de la forêt par rapport aux animaux sauvages, par rapport à d'autres problèmes. Il n'y a pas C'est dommage. Par exemple, je connais en forêt d'Embouillet le coin où il y a une réserve d'animaux type cerf, daim, etc.
Espace Rambouillet.
Oui, je connais très très bien. J'y suis allé souvent. J'y ai emmené mes enfants. C'est un peu dommage que tout ça soit enfermé. C'est-à-dire, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse y accéder et en même temps faire la formation d'un public qui soit de plus en plus respectueux de ces espaces.
Oui, alors justement, un des responsables de l'ONF, à la question que je lui posais, la même que celle que je viens de vous poser, disait, à une certaine époque, les gens allaient en forêt en famille, avec leur pique-nique, ils allumaient le transistor, alors qu'aujourd'hui, c'est une autre approche, c'est une autre démarche, et ils sont très sensibles à l'écosystème.
Ah oui.
Et,
oui, aujourd'hui,
vous êtes d'accord avec ça ?
Aujourd'hui, c'est pas le même public. Ouais. Hein. On n'est plus tout à fait dans les visites des familles, encore qu'il y en ait encore un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont conscients que l'écosystème forestier est absolument indispensable au maintien de la vie simplement et de la diversité biologique en Île-de-France.
D'accord. Bien. À propos des transports de l'État. Des routes, je dirais, puisque c'est un volet dont vous avez la charge aussi.
Ah non, plus maintenant. Les routes, c'est vraiment de la responsabilité des départements et de l'État.
Oui.
L'État, quand ce sont des routes qu'il qualifie de stratégiques, et évidemment, c'est lui qui fait le choix, le département, pour toutes les routes, y compris nationales, qui sont reclassifiées dans la voirie départementale. La région n'est en principe plus en charge des routes. Cela dit, nous en sommes occupés dans le cadre de contrats que nous signons avec chacun des départements pour améliorer son réseau routier, notamment en termes de sécurité routière et de protection par rapport au bruit.
D'accord.
Alors, on l'a fait beaucoup avec le département des Yvelines. Je crois même que dans le contrat que nous avons signé avec le département des Yvelines, à l'époque, qui portait sur... à l'époque, parce que c'était encore à l'époque des francs sur 250 millions de francs chacun, les deux tiers pratiquement des crédits étaient utilisés pour les routes, que ça soit la 190, le carrefour de la Maladrerie à Poissy, etc., etc.
Et le dossier de la Nationale 12
vous... Ah ben, bien sûr, nous allons être sollicités d'abord de donner notre avis comme collectivité parce que c'est un élément d'aménagement régional indispensable. Et puis peut-être serons-nous sollicités financièrement sur le choix final. C'est quand même un élément d'aménagement du territoire indiscutable.
Ouais.
Moi, je suis favorable à ce que il y ait un désenclavement de cette zone de notre département, de notre région, mais à une condition, c'est que on ne le fasse pas en massacrant un peu plus les 300 à 400 000 habitants urbains qui sont déjà soumis à de très fortes nuisances. Autrement dit, si on peut éviter de mettre en cause l'essentiel du vallon du Pommeray, mais que ça peut offrir une part de la solution, il faudra regarder, parce que c'est pas admissible de prendre en otage, en quelque sorte, tous les habitants urbains de cette zone, et en particulier ceux de Trappes-et-la-Verrière, qui vivent déjà très mal.
Très bien. Bon, on va justement, ça m'amène à la politique de la ville. L'action de la région inscrite dans le cadre du contrat État-Région a fait l'objet d'une délibération de principe en 1999, je crois.
Absolument.
Désormais, son champ d'intervention couvre l'investissement et le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est assez original dans une politique de la ville parce qu'au fond, on était sollicité avant essentiellement pour des opérations de démolition, reconstruction ou pour des implantations d'équipements publics, donc des financements d'investissements lourds. Ce que nous avons choisi, c'est d'être aussi présent dans la politique de la ville, au contact des associations par des crédits d'aide, d'appui aux associations qui permettent de rétablir du tissu social et du tissu humain dans la ville. C'est l'originalité de la politique de la ville menée par la région. C'est à peu près deux tiers investissement lourd et un tiers crédit de fonctionnement, mais dans certaines villes et dans certains quartiers sensibles, ça a permis de faire exister, par exemple, des associations de prévention, des clubs sportifs, d'installer des petites maisons des jeunes ou des lieux de rencontres, et je crois que ça a été extrêmement utile. Cela dit, l'importance, si j'ose dire, du secteur à couvrir est considérable, parce que vous savez qu'il y a maintenant plusieurs centaines de quartiers difficiles simplement en région Île-de-France, et on ne peut pas évidemment être présent absolument partout en faisant par ailleurs des transports, du logement, de la formation professionnelle et tout ce que pourquoi la région est faite.
Bien sûr. Bien. Recherche, innovation, éthique. Hein, l'Île-de-France est une région au premier plan mondial dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les fameux TIC. Quel est l'effort de la région dans ce domaine-là ?
Alors, Sur tout ce qui est recherche, nous ambitionnons et nous développons d'ailleurs depuis 2 ans et demi un effort qui nous amènera à un budget de la région consacré pour 5% de son intégralité à la recherche. Donc ça sera très au-dessus des chiffres de l'État et sans doute au-dessus de la plupart des chiffres régionaux. Nous y tenons parce que, bon, c'est le sens de l'avenir. À travers ça, c'est à travers ces opérations que nous allons aussi aider les fameux pôles de compétitivité qui portent sur l'informatique, l'optique, la médecine et l'image. Les fameux pôles de compétitivité pour lesquels notre région a été sélectionnée 5 fois pour des pôles à vocation mondiale. Donc je crois qu'on est là-dessus extrêmement actif. Mais ce dont vous parlez, c'est surtout la possibilité d'accéder aux technologies. Alors, voilà. Nous travaillons par des accords et des financements régions, départements, qui permettent à des zones entières d'être reliées, notamment par le haut débit, et nous finançons, disons, les installations et concernant le haut débit, surtout quand on peut les relier à des établissements d'enseignement supérieur, au lycée, bien sûr, et au centre de recherche. Alors, on l'a fait dans les Yvelines, avec comme partenaire, je crois, l'ex-Lyonnaise des Eaux. Oui. Et on l'a fait également en Seine-et-Marne, où nous avons un programme qui se développe de la même manière, et nous sommes sollicités actuellement par plusieurs autres départements pour le faire. Globalement, c'est un effort qui porte sur plusieurs dizaines de millions d'euros.
D'accord. Bien, dernier volet que nous allons aborder, parce qu'on ne peut pas aborder tous les domaines, hein. Sport-loisirs, alors je vais vous donner quelques chiffres, et puis vous allez me dire si vous en êtes d'accord. Alors, d'abord, la région, c'est 11 millions d'habitants.
Oui.
C'est 3 millions 7 de moins de 26 ans.
Oui, et presque 4 millions de licenciés,
oui. Oui, c'est ça. 4 millions et demi même de pratiquants. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous licenciés.
Je parlais des licenciés. D'accord. Avec les pratiquants, ça fait plus. Évidemment, moi, je suis pratiquant et pas licencié.
D'accord. Donc, 33% de licences féminines. C'est exact.
Oui, c'est juste. Il y a beaucoup de sports féminins dans la région. C'est d'ailleurs là qu'est le berceau, par exemple, du football féminin aujourd'hui.
Ouais. Alors, pour revenir à votre cheval de bataille, il y a quand même 14% de dirigeants qui sont des dirigeantes.
Oui, absolument, ouais. Absolument. Mais ça, c'est fascinant, c'est la force du bénévolat,
ouais.
Et il faut le préserver. Et c'est la raison pour laquelle nous aidons, toutes les fédérations et les ligues sportives, pour la formation de leur personnel bénévole et salarié, d'ailleurs, ouais. Mais il y a plus de bénévoles que de salariés, et pour l'équipement informatique et la gestion de ces fédérations sportives. Nous sommes intervenus auprès de toutes les ligues, pratiquement il n'y en a qu'une, je le dis toujours, ça fait sourire, qui m'a échappé parce que pour moi, je n'ai pas vu le moyen de la financer.
C'est laquelle ?
La ligue du bobsleigh.
Ah bon ? Oui, effectivement.
Le bobsleigh Île-de-France. Cela dit, nous avons la fédération de ski, donc il n'y a pas de raison de ne pas y penser. Voilà.
Oui, le bobsleigh, d'ailleurs, qui s'entraînait, une équipe de la Jamaïque, je crois, à une certaine époque, qui s'entraînait sur les routes.
Oui, et puis qui s'est entraîné, je pense, aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'endroit qu'on appelle la colline de la Revanche, et qui, probablement, un jour ou l'autre, et même très vite, va se transformer en vélodrome.
D'accord. Voilà. Bien, si vous le voulez bien, Jean-Paul Huchon, nous allons adopter une première pause musicale, et puis peut-être également publicitaire, parce qu'il faut bien qu'on vive, nous aussi.
C'est normal.
À tout de suite.
Oh, RVE sur Internet. Pour nous écouter sur Internet, il vous suffit tout simplement de faire www.radio-rve.com. Soyez les bienvenus.
Vous êtes une collectivité, une municipalité ou une association? Communiquez vos informations ou manifestations par l'intermédiaire d'RVE.
01 30 41 15 15.
Les infos locales, c'est toute la journée sur RVE, du lundi au dimanche. Nous faisons notre publicité, faisons la vôtre.
RVE 103.7.
Et sur internet.
Radio-RVE.com.
RVE sur 103.7.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Oui, Monsieur le Président, je vais me permettre de plagier une chronique de Irène Frein. Et je sais qu'elle arrive de sa Bretagne natale, mais moi je suis gascon. Alors je vais transposer un petit peu, et je vais dire, arrivant de Gascogne, j'éprouve dès le péage de Saint-Arnoult en Yvelines, la sensation de pénétrer un pays à part, et je me demande, qu'est-ce que c'est que l'Île-de-France ? La mémoire d'un pays ancien, celle de ses coteaux crayeux, ses vieilles vallées, ses clochers rudes et ses vestiges de forêt qui s'amenuisent derrière mon pare-brise, où l'Île-de-France se confond-elle avec la ceinture pavillonnaire qui s'épaissit devant moi, agglutinée en magma d'hypermarchés, d'entrepôts, de superpylônes, le monde nébuleux des communes regroupées sous le vocable informel de banlieue. Je lève un œil vers le ciel, j'y reconnais cette couleur coquille d'huître, nacre et bleu-gris, que je ne vois qu'ici, ou alors sur les toiles où Monet fixa la magie des rives de la Seine ou de la Marne. Oui, c'est peut-être cela l'Île-de-France, une couleur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, je trouve ça très beau. J'ai lu cette chronique d'Irène Frein dans notre magazine régional. J'ai trouvé ça très joli. En plus, très vrai, parce que c'est vrai qu'il y a des lumières en Île-de-France qui sont très particulières et qui, en effet, donnent dans le bleu-gris.
Oui.
Mais avec des soirées qui sont parfois assez flamboyantes. L'Île-de-France, pour moi, c'est justement ce que dit Irène Frein, c'est un kaléidoscope, c'est une diversité extraordinaire de populations, de lieux, parce que entre les jardins de Port-Royal et puis la cité des 4000 à la Courneuve, vous avez vraiment le jour et la nuit. Et par conséquent, c'est cette diversité, c'est cette richesse, c'est aussi la jeunesse, Île-de-France, parce que nous avons une proportion de jeunes beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et puis c'est aussi quand même, l'Île-de-France, je dirais, c'est aussi un peu l'intelligence. 17 universités, 500 000 étudiants et 45% des chercheurs français à la pointe, si j'ose dire, de la recherche et de la science.
Très bien. Bon, on va parler un petit peu de politique générale maintenant, mais très peu, hein, parce que, comme je l'ai dit en préambule, c'est surtout le conseil régional qui nous intéressait, mais on peut pas, dans la période actuelle, ne pas l'aborder. Alors, d'abord, premier point, le bouquin de Christian Blanc, qui dit « Ou la croissance, ou le chaos ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que vous êtes quand même relativement proche de Christian Blanc.
Pas politiquement, c'est un peu éloigné du fait qu'il est, il appartient maintenant quelque part à la majorité, malgré tout, même s'il a des positions très personnelles, majorité présidentielle.
Ouais.
Je reprendrai cette phrase en disant sans croissance, de toute manière, nous ne viendrons à bout de rien. Et je pense qu'il ne faut pas refuser le thème de la croissance. Au contraire, par contre, la croissance doit être à la fois équitable, c'est-à-dire qu'elle soit bien répartie. Or, ce dont souffre la France aujourd'hui, c'est quand même que le revenu national, de plus en plus, se diffuse du côté du capital et pas du travail. C'est-à-dire qu'il y a une évolution négative de notre revenu national pour les revenus du travail, et alors que nous n'en avons, ce n'est pas du tout une obligation, nous pourrions faire autrement. Donc je crois que la croissance, oui, mais à condition qu'elle soit équitablement répartie et que tout le monde en profite. La croissance, oui, à condition qu'elle ne mette pas en danger les grands équilibres biologiques, la biodiversité et les, nos racines écologiques. Et ça, c'est ce que nous sommes amenés à faire pour corriger en permanence en région Île-de-France, qui est toujours menacée par le béton, par l'envahissement, et par exemple, dans notre schéma directeur d'aménagement que nous discutons actuellement, la question, c'est la reconquête des espaces verts. C'est pas la préservation des espaces, c'est la reconquête des espaces verts, la reconquête de, d'espaces dans lesquels les Franciliens vont pouvoir redécouvrir un petit peu leur terroir. Donc, oui, bien sûr, je crois qu'une une politique aujourd'hui qui est une politique, au fond, presque de stagnation économique, parce qu'on n'a pas donné les bonnes priorités là où il fallait, à l'éducation, à la recherche, au transport, aux services publics, on est handicapé en matière de croissance. On a quand même connu une des plus fortes croissances d'Europe dans les années précédentes. Moi, je ne dirais pas que c'est le mérite unique de Lionel Jospin et de son gouvernement, c'est pas ça le problème. Mais il y avait quand même une volonté de croissance, une volonté de soutenir l'économie, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est pas ça. La volonté, c'est de faire en sorte que ceux qui, au fond, sont déjà les mieux lotis, continuent à bénéficier de cet écart. Et le résultat, c'est que ça produit des effets redoutables de chômage, d'exclusion, qui eux-mêmes se répercutent sur le fait que le pouvoir d'achat diminue, et que quand le pouvoir d'achat diminue, la consommation ne se développant pas, l'économie stagne. Donc c'est vraiment un problème de philosophie. Je ne suis pas sûr que je sois totalement d'accord avec Christian Mann sur la manière de faire. En tout cas, il faut insister sur le fait que où c'est la croissance, où c'est les chaos, il a raison. C'est par la croissance qu'on absorbera les chocs inégalitaires que nous subissons aujourd'hui et qu'on retrouve dans la crise des banlieues.
D'accord. On va évoquer un petit peu l'affaire qui secoue les plus hautes instances de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
J'ai été directeur de cabinet du Premier ministre. J'ai été en charge de ce qu'on appelle le renseignement et les services secrets, puisque c'était le rôle du directeur de cabinet. Ce qui se passe là est totalement invraisemblable. C'est une affaire qu'on pourrait dire peut-être du pied nickelé, peut-être plus grave, dans lesquelles, surtout, ce qui est le plus critiquable, c'est qu'on utilise les services de l'État à des fins personnelles. Et ça, c'est pas du tout admissible. Alors, qui est coupable ? Il n'y a que la justice qui pourra le dire, on pourra l'établir.
Mais c'est grave.
Ah oui, c'est grave que on soit dans une république qui apparaisse presque comme bananière, où les hommes du pouvoir peuvent se servir de la république à leur gré.
D'accord. Bien. 2007, c'est demain. Hein, c'est.
Oui, ça déjà beaucoup de gens y pensent.
Hein. Oui, absolument. Alors, d'abord, premier point, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Ségolène Royal sur le podium, là, au plus haut niveau, pour le moment, dans les sondages, 50% des Français...
50% des sympathisants socialistes, il est bien compris.
Socialistes, oui, absolument. Vous faites bien de me reprendre, parce que c'est...
Parce que 50% des Français, il faudra le prouver, on verra.
Ouais. Bon. D'accord.
Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a légitimement une aspiration des Français à ce qu'une femme, je vous le disais tout à l'heure pour la région, exerce des responsabilités importantes. Et c'est Ségolène Royal est présidente de région, elle a été ministre, elle est députée, je pense qu'elle a les qualités pour exercer d'autres responsabilités, tout le monde vous le dira, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le deuxième point qui apparaît dans cette espèce de flambée, tout à fait intéressante pour les socialistes, parce qu'elle leur donne manifestement une chance de gagner, il ne faut pas non plus oublier ça. Ce qui apparaît important, c'est que, quelque part, ça ringardise un peu les habituels ténors du Parti Socialiste, c'est-à-dire que tout le monde se dit, bon, les éléphants, on les a peut-être trop vus, il faut peut-être quelque chose de différent. C'est pas tellement que Ségolène soit là... petite dernière de l'année, elle a déjà une expérience, mais disons qu'elle incarne quelque chose d'autre. D'ailleurs, nous l'avions vécu au moment de la campagne des régionales, parce que pratiquement tous les présidents de région ont été élus alors qu'ils n'étaient pas nécessairement en notoriété, ils n'avaient pas forcément exercé des responsabilités antérieures, ni dans le gouvernement, ni parfois au Parlement. Il y avait donc un besoin de renouvellement, un besoin de proximité du terrain, un besoin de proximité des problèmes des habitants. habitants. Et je crois qu'elle incarne ça aussi, parce que, quelque part, elle incarne ça aussi pour les Français, parce que elle parle aussi de choses que les gens vivent, et les problèmes de la famille, les problèmes du couple, les problèmes de la santé, les problèmes de la, je dirais, de la morale, de l'éthique, de la recherche, etc. Donc, au fond, elle a toutes ces, elle a tous ces facteurs qui la portent. Est-ce qu'elle sera la candidate? Ça ne dépendra que des militants socialistes qui se prononceront et qui auront certainement à se prononcer entre plusieurs candidats. Et moi, j'ai le plus grand respect pour Ségolène Royal et ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait. Mais je le dis franchement, c'est pas mon candidat, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout être quelqu'un qui a une grande expérience internationale, qui puisse prendre à bras le corps le fait que l'Europe pour le moment est en panne, et quelqu'un qui ait donc une grande culture internationale, quelqu'un qui soit par ailleurs extrêmement calé en politique économique et qui ait une capacité de négociation sociale forte aussi, on l'a bien vu avec le CPE, et ça dessine un portrait qui est plus proche de celui de Dominique Strauss-Kahn ou de Lionel Jospin que de Ségolène Royal aujourd'hui. Maintenant, après tout, si elle est désignée comme notre candidate, évidemment, et après le vote, comme d'habitude, les militants socialistes promouvront la candidature, colleront des affiches, et moi je ferai tous les meetings qu'il faut pour Ségolène, bien sûr.
Bien. Alors j'écoutais Nicolas Dupont-Aignan ce matin chez des collègues à nous, et qui disait que, alors, il les a cités d'ailleurs, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, c'est la politique des people. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
C'est un peu injuste. Bon, Dupont-Aignan est un polémiste. C'est d'ailleurs un homme de qualité. Moi, j'ai de très bons rapports avec lui, mais c'est un peu polémique. Pourquoi est-ce que... parce qu'ils ont mis en page leur vie privée dans des grands canards, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, Lionel Jospin a rarement fait ça. Par contre, les autres, ils l'ont pratiquement tous fait, honnêtement. Chirac n'a pas été le dernier non plus. Je pense que les Français ont un besoin contradictoire que moi, je perçois comme président de région. Quand je les vois, les franciliens, quand ils viennent vers moi ou que je vais vers eux, ils veulent à la fois que vous soyez comme eux, et ils veulent aussi que vous soyez différents d'eux, et que vous soyez à la fois presque inatteignables, et en même temps ils veulent pouvoir vous toucher et sentir que vous êtes comme les autres. C'est très très curieux, parce que moi, quand je vais dans un hypermarché ou chez un commerçant, les gens qui me croisent me disent « Ah, mais vous faites vos courses ?» Comme si j'étais un extraterrestre qui ne fasse jamais rien de normal. Et ça m'arrive souvent de me retrouver dans des petits matchs de foot ou des spectacles, ou même de jouer moi-même à un sport, et les gens disent « Ah, mais vous êtes là, mais c'est bien étonnant, bravo, etc. » Oui, parce qu'ils ont besoin, ils ont du mal à croire que nous, les hommes politiques et les femmes politiques, sont des gens normaux. Or, je crois qu'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, et ce sont les sociodémocrates scandinaves, anglais ou allemands qui nous l'ont montré, une politique modeste dans laquelle on vit dans une certaine mesure la vie de tout le monde est de nature à donner confiance dans nos dirigeants.
Bien. Alors vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Alors, pour mieux cerner votre personnalité, nous allons, Jean-Paul Huchon, nous allons passer par une série de questions-réponses très courtes. Vous êtes prêts?
Absolument.
Alors, Paris ou province?
Je suis parisien depuis 4 générations. J'aime Paris, mais plus je vieillis, plus j'ai envie de province.
D'accord. Ciné ou DVD?
Plutôt ciné, parce que je crois c'est un acte. Il faut un acte volontaire d'aller au spectacle. Et puis c'est la rencontre des autres quand même.
Bien.
DVD, c'est un peu enfermant.
Repas entre potes ou resto gastro?
Plutôt entre côtes.
Ouais.
Ouais. Gastro, je vois ça tous les jours. Vous savez, c'est à la fin, c'est fatigant. Hein, oui.
Chien ou chat?
Chat. Chat. Enfin, vraiment, j'ai un chat, j'ai toujours eu un chat, et puis vous savez, j'ai toujours cette phrase de, je sais pas si elle est de Léo Ferré, mais je crois qu'elle est de lui. Il n'y a pas de chat policier.
D'accord. Coluche ou Jamel Debbouze?
Ah, Coluche, beaucoup plus de talent, beaucoup moins frimeur et beaucoup moins, je dirais, à la remorque de la société actuelle. Coluche était un vrai inventeur.
Beatles ou Rolling Stones?
Ah, moi, j'étais plutôt Rolling Stones pour le côté un peu rebelle, sauvage, oui.
Foot ou tennis?
Alors là, c'est difficile parce que je pratique les deux sports, mais disons foot quand même parce que c'est toute ma jeunesse. Et encore aujourd'hui, je joue,
ouais. Ouais.
Numéro 10 dans une équipe de Clampin. ça m'est même arrivé de jouer avec le Variété Club récemment, plusieurs fois. J'ai compris ma douleur, hein. En une heure et demie, j'ai touché 5 fois la balle.
D'accord. Et enfin, dernière question, pêche ou chasse?
Je suis ni l'un ni l'autre. J'ai un peu plus de sympathie pour le pêcheur qui attend très longuement et qui parfois s'endort au bord de l'eau avec le côté un peu Renoir Monet. Mais je déteste pas non plus les chasseurs. Comme j'ai une maison en Sologne, ça m'arrive souvent de les accompagner sans fusil, mais juste pour l'hygiène et
le plaisir de la balade.
Le plaisir de la balade, voilà.
D'accord. Bien, cette émission touche à sa fin, Jean Pollution. Ça passe très vite,
oui.
Surtout avec vous. Et bien, écoutez, je vous remercie.
Merci
pour cette
beaucoup.
Émission. Et la semaine prochaine, je recevrai, dans un domaine tout autre, un éducateur de rue qui s'appelle Christophe Marot et qui fait un boulot assez colossal. Et il nous expliquera un petit peu les à côté de son travail et je crois que c'est fort intéressant aussi.
Ça va être passionnant. On vous écoutera. Merci beaucoup.
Bonsoir Jean-Paul Huchon.
Merci.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec.
In my
wonder.
Upon her head, I hear the sound of a
picture to her on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Smile, softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. Good vibrations. Excitations. Good vibrations. Vibrations are happening with her.